Vous comprenez qu'après une telle présentation, je suis un peu gêné. En fait. Mais ce sont les choses qui se rajoutent une année après l'autre, comme ça, et lorsqu'on a un certain âge, on se regarde en arrière, on se rend compte qu'on a fait beaucoup de choses. Rilke a toujours été une grande passion pour moi, depuis longtemps, comme ça. Mais j'ai eu la chance de m'approcher vraiment d'une façon plus concrète à Rilke, à son nom, à sa personnalité, à partir du moment où on m'appelait ici comme président du concours Thibaut Varga. Et je savais que Sierre, c'est à quelques kilomètres de Sion, et alors j'ai voulu tout de suite voir Sierre, voir l'hôtel Bellevue, voir Musotte, et voir bien sûr l'église de Rarogne, qui est 10-15 kilomètres d'ici, je pense, où il y a le petit et royonnant tombeau vraiment des Rilke qui touche profondément le cœur de tous les gens qui ont la passion de la grande poésie. Alors, je vais vous raconter un peu. L'idée, c'était de vous raconter Rilke et ses années de pèlerinage en Suisse. Parce que c'est à vous qui revient l'honneur d'avoir reçu et d'avoir accueilli d'une façon unique. Parce que vous aviez compris alors, je m'adresse à vos ancêtres bien sûr, mais vous avez eu l'intelligence et la sensibilité d'accueillir ce grand poète et de le soigner, accueillir, etc. Comme, je m'excuse, mais comme il s'agit d'une conférence dans une langue qui n'est pas la mienne, alors j'ai écrit mon texte. Normalement, je ne le fais pas. Lorsque je fais une conférence, je parle comme ça, en italien. Je m'excuse d'abord, j'espère n'être pas trop monotone. Alors, sauf une brève période de mobilisation à Vienne chez le ministère de la guerre, où il a rencontré Stefan Zweig, c'est à Munich que Rilke vécut la plus grande partie des années de la guerre. La tragédie de la guerre, bien sûr, ajouta un poids de plus à l'angoisse causé par le silence dans lequel le poète avait sombré depuis longtemps. Nous les voyons très actifs pourtant, mais dans des domaines qui côtoient seulement la poésie. En 1918, dans les derniers mois de la guerre, qui furent aussi les plus amers, il traduisit en allemand les vers, les sonnets de Michel-Ange. Et après Michel-Ange, ce fut le tour de Mallarmé, dont il traduisit quelques poèmes choisis parmi les plus obscurs et mystérieux. Une dentelle s'abolit, et surtout le Vierge, le Vivace et le Bel aujourd'hui, qui expriment le sentiment de frustration issu d'une volonté de renouvellement spirituel qui n'arrive pas à se réaliser. Dans cette atmosphère intellectuellement si morne, nourrie de lectures innombrables et de la fréquentation des intellectuels, artistes et politiciens de gauche, le 4 novembre 1918, Rilke reçoit l'invitation pour un cycle de conférences à tenir dans 7 villes de la Suisse germanophone. L'essai Munich s'avéra une affaire très compliquée. Étant né à Prague, et donc dans l'Empire autrichien, Rilke était le citoyen d'un État qui n'existait plus. Et il fallut attendre un certain temps afin d'obtenir un passeport de la toute récente République tchécoslovaque. Aux difficultés d'ordre bureaucratique, il faut ajouter l'incertitude de Rilke, qui n'était pas un homme aux décisions soudaines. Vous savez, il était toujours comme ça. À l'invitation du club de lecteurs de Hottingen, suivi celle des deux dames de la vieille aristocratie de la Bohème, Madame la comtesse Dobrzhensky et Sidi Nadani von Bohutin. C'était une très belle, très élégante dame, très cultivée, qui a eu l'honneur de se voir dédier plusieurs poèmes qui ont été mis en musique par Anton Webern. Très beau, hein? Si vous avez l'occasion de les entendre, c'est très beau. Par exemple, à la fin de, à la fin du cahier de Malte Laurisprige, il y a une scène qui se passe dans un salon sur le Canal Grande à Venise, et il y a une dame qui est une cantatrice de grande réputation. On l'a pris de chanter, mais elle ne veut pas. Elle dit non, il dit que non. Et alors, bon, les gens commencent un peu à s'éloigner pour passer dans une autre salle, mais soudainement, elle décide de chanter et s'est mise à chanter. Alors, Rilke met dans le texte, en prose, des cahiers de Laurisbrieg, deux petits poèmes. Et lorsque Anton Webern lut cette incroyable œuvre qui est le cahier de Malte Laurisbrieg, il fut tellement emballé par ces textes qu'il les a mis en musique, et vous le trouvez dans le Lieder Opus 9. C'est vraiment une pure merveille. C'est le commencement de la grande lyrique inspirée par Rilke lui-même. Alors, à l'invitation du club de lecteurs de Hottingen, comme je disais, suivi celle des deux dames de la Bohème qu'il avait connue dans sa jeunesse, etc. Le 19 juin, Rilke quitta finalement Munich et prit le train pour Zurich. Toutefois, il n'avait aucune envie de s'engager immédiatement avec ses conférences et son indécision traîna longtemps. Il se rendit d'abord à Nyon et puis à Genève où il rencontra Baladine Klossowski, qu'il avait connu à Paris lorsqu'il était encore le secrétaire de Rodin. Madame Klossowski avait divorcé pendant la guerre et vivait à Genève avec ses deux garçons qui étaient tous les deux voués à un grand avenir. Pierre, l'aîné, comme écrivain et philosophe bien connu. Et le cadet qui serait devenu un peintre célèbre avec le nom de Balthus. Comme il arrive parfois dans les grandes histoires d'amour, cette première rencontre genevoise se passa avec beaucoup de gentillesse et une apparente indifférence. Rilke partit aussitôt pour Sollio, dans les Grisons. Est-ce que vous dites Sollio? C'est correct? Merci. Sollio dans les Grisons, où il devait rester quelques mois. Ce ne fut que vers la moitié d'octobre qu'il revint à Genève et rencontra Baladine. Encore une fois, la rencontre fut hâtive, mais elle devait laisser un signe avec un grand bouquet de roses qui fut remis à la dame par l'un de ses fils après le départ du poète pour Zurich, où il commença ses lectures qui remportèrent un grand succès. Dans ces soirées qui se passaient devant un public très nombreux, il m'arrivait parfois à 600 personnes dans une salle, vous comprenez, Rilke lisait ses poèmes, bien sûr, mais il aimait aussi rappeler les rencontres cruciales de sa vie, c'est-à-dire avec Tolstoï, avec Rodin, avec le peintre Lev Pasternak, qui était le père de l'écrivain Boris Pasternak, et ce peintre de grande réputation à Moscou lui fit un très beau portrait qui se trouve aujourd'hui au musée de Oxford. Ne manquez pas de le voir si vous passez par Oxford. C'est très beau, c'est le plus beau portrait de Rilke qui existe. Et bien sûr, tout cela avec un charme évocateur qui ravissait les auditeurs. Au cours de l'une de ces soirées, Rilke fit la connaissance d'une dame suisse, Nanni Wunderlich-Volkart, avec laquelle il devait échanger par la suite des centaines de lettres dont l'ensemble constitue un journal d'une richesse inouïe. on doit le dire franchement. Nanny Wunderli et ses cousins Reinhardt furent jusqu'à la fin de la vie de Rilke ses anges gardiens. Accueillis avec hospitalité sans pareil, soignés, dorlotés, Rilke demeurait inquiet. Récomposer la fracture entre le passé récent et le présent était une tâche presque impossible. Les plus grands écrivains de sa génération, il suffira de rappeler le cas du Viennois Stefan Zweig ou celui de Hofmannsthal, avaient replié leur talent sur la complainte du passé. Die Welt von gestern, le monde hier, c'est l'exemple le plus frappant de cette impossibilité de porter son regard sur l'avenir. Eh bien, Rilke, qui à plusieurs égards nous paraît lié au passé, car il savait l'évoquer d'une façon incomparable, a engagé chaque instant de sa vie et chaque atome de son énergie dans le but de transcender soi-même et transcender la perfection d'œuvres comme le Stundenbuch, le Neue Gedichte ou le Cahier de Malte Lauris Brigge, dont la renommée avait déferlé sur l'Europe entière. Cette entreprise sans pareil, c'est dans les années suisses qu'il l'accomplit. Et si nous voulons suivre notre poète sur les chemins raides et même désespérés parfois, nous devons lire les 600 pages de la correspondance entre Rilke et Merlin. Je vais vous dire tout simplement que c'est un bouquin comme ça, 600 pages, et que ces lettres sont écrites, non, disons, 80-90% en français. Mais il y a de temps à autre quelques phrases en Allemagne, en allemand. Et les raisons d'après lesquelles les deux s'expriment en allemand, de temps à autre, c'est compliqué. Mais on le verra. J'ai dit Rilke et Merlin parce que c'est avec ce nom qu'il appelle Baladine. C'est une merveilleuse histoire d'amour où les soupirs, la mélancolie, les fleurs, les larmes, les découvertes, les repliements de l'âme dans le silence se juxtaposent et s'entrecroisent continuellement. On voit s'ébaucher dans ses lettres, surtout du côté de Merlin, une expérience existentielle qui ressemble beaucoup à ce qu'on appelle en allemand le Bildungsroman. Vous pensez que sais-je à Wilhelm Meister, Lehrerjahre de Goethe, ou plutôt un livre qui n'est un peu oublié aujourd'hui, même s'il est un chef-d'œuvre, à mon avis, comme la Die Nacht Sommer de Adalbert Stifter, qui a été traduit en français avec le titre de L'arrière-saison. Après quelques jours passés ensemble à Genève, au début du mois d'août, Merlin dut partir pour la montagne avec ses deux garçons. Et là-haut, à Beatenberg, elle écrit à son René des phrases comme celle-ci. Quelquefois, je raconte des choses de vous, comme de quelqu'un qui de temps en temps descend sur terre pour faire des miracles. Couché dans l'herbe, mais sentant comme enraciné dans cette terre un peu humide et tiède, je lus votre Stundenbuch. Je lus à haute voix, et plus je lisais, plus ma voix devenait tremblante. Et je m'aperçus que je pleurais. Merci pour votre lettre. C'est si beau qu'il me semble que je suis devenu un petit soleil. Quelques semaines plus tard, nous pouvons lire dans une lettre de Merlin la crainte que Rilke abandonne la Suisse. Elle écrit, je voulais vous dire que vous ne pouvez pas quitter la Suisse sans avoir vu le Valais. Et je voulais proposer tout un plan. Mais rien ne se passa. Puis, soudainement, le 3 octobre 1920, Rilke arrive à Genève et après 4 jours, les deux amants partent pour Sierre, où ils arrivent le 17. Le jour suivant, ils se rendent à Sion. Ils font une excursion sur le mont Valère pour voir la cathédrale romane et la chapelle de tous les saints. Sur ces paysages, Rilke écrit à Nanny Wunderli. Écoutez, c'est drôle ça, hein. C'est une Espagne un peu moins fanatique, un peu plus conciliante. Puis, les deux retournèrent à Sierre et s'installèrent pour quelques jours à l'hôtel Château Bellevue, ici. Ça me fait une certaine impression de raconter ces choses ici, vraiment dans les lieux. Parce que vous savez, ce matin, de bonne heure, je me suis levé et j'ai voulu voir la terrasse. Et alors, j'ai dû faire le tour de l'hôtel. Et en fait, cette terrasse, on comprend le rôle qui va jouer dans cette histoire. Et ils passèrent, s'installèrent pour quelques jours à l'hôtel Château Bellevue, où ils passèrent deux heures inoubliables en lisant sur la terrasse. Les lettres de cette période montrent entre les deux amants une entente parfaite. Et Rilke envisage la possibilité de passer l'hiver à Genève. Mais il ne devait pas être comme ça. Les difficultés économiques causées par la dévaluation du Deutschen Mark, même si les livres de Rilke se vendaient beaucoup en Allemagne, et l'appel surtout de la conscience de l'écrivain, toujours en attente de cette résurrection qui ne donnait le moindre signe, le poussait à se retirer dans une solitude totale. Nanny Wunderli lui avait trouvé une solution parfaite. Un petit château à Berg am Irschel, pas loin de Zürich. Rilke vécut du 12 novembre jusqu'au 12 de mai dans ces lieux solitaires que nous avons l'impression de bien connaître grâce aux longues et nombreuses lettres que de son ermitage, il écrivit à Merline. Ce sont là des lettres merveilleuses qui savent moduler le chant de la solitude, décrire l'âme de fleur, le charme paisible d'un vieux canapé placé devant la cheminée, le silence qui entoure la maison et le bruit musical produit par une fontaine dans le jardin. En un mot, c'est l'âme de choses que le poète sait extraire de leur immobilité silencieuse et faire résonner comme une musique. Les lettres de Merline nous racontent la tristesse d'être éloigné de son amant, mais aussi l'espoir que le silence dont Rilke s'est entouré sera fertile. Racontez-moi un peu si vous êtes déjà installé, si vous travaillez à quelque chose de beau et si vous me portez profondément dans votre cœur comme moi, je vous porte dans le mien. Je ne crois pas que vous serez gêné de moi, de mon amour ou de mes lettres dans votre ermitage, mais j'espère qu'un jour, vous m'aimeriez plus que jamais et que tout ce que doit se retenir à présent se jettera sur moi comme un océan. La réponse de Rilke est incroyablement longue. Parfois, il passait une demi-journée à écrire à Merline. Il appelait ça « respirer par la plume ».« Respirer par la plume ». Il dit « ce n'est pas de lettres ça, c'est respirer par la plume ». Et en fait, dans cette lettre, il nous laisse entrevoir le secret de l'inspiration. C'est un sujet qu'il n'abordait jamais dans ses lettres. Hein. Mais pour cette fois, il a fait une exception. Toujours au commencement du travail, il faut refaire cette innocence première. Il faut revenir à l'endroit naïf où l'ange vous a découvert quand il vous rapportait le premier message engageant. Il faut trouver derrière le ronce cette couche où alors on était endormi. Cette fois, on n'y dormira pas. On va prier et gémir, n'importe. Si l'ange daigne venir, ce sera parce que vous l'avez convaincu, non pas avec vos pleurs, mais par votre humble décision de commencer toujours. Deux points, ein Anfänger zu sein. L'humble décision de toujours recommencer, voilà le secret de l'inspiration. Voilà l'exigence de solitude et de recueillement qui hantait notre poète. Quelques vers de Paul Valéry Kéril, qui traduira plus tard, résume parfaitement tout cela. C'est une brève poésie qui s'appelle Palme. Patience, patience dans l'azur. Chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr. Après ce page un peu initiatique qui semble tenir amour et tendresse à l'écart, Rilke adresse à Merlin un appel d'amour confié aux eaux de la fontaine du jardin. Dans la nuit de mon lit, par la fenêtre ouverte, je distingue même toutes les nuances de sa rechute, modulées par le moindre changement de ses eaux en cadence. Et imaginez-vous cette fontaine persévérante qui semble placée non dans un parc fermé, mais au sein même de la nature, s'impose à moi comme une vision de métamorphose. Merlin, serait-ce ton cœur qui interminablement monte devant moi et retombe dans son bonheur assuré? Je vous signale que ça c'est très beau en fait, mais il y a un autre texte de Rilke qui traite le même sujet, La Fontaine, c'est dans le Testament, c'est encore plus développé. L'hiver silencieux et solitaire de Bergamirschel n'apporta aucun fruit, sauf un court cycle de poèmes qui s'appelle Aus dem Nachlass des Grafen C.B., qui n'est pas parmi les meilleures réussites de Rilke, mais qui a tout de même attiré l'attention du compositeur Wolfgang Grimm, auteur d'une suite de lieder inspirés par ce poème. Le début du mois d'avril porte avec soi la séparation des deux amants. Merlin se voit forcé à quitter Genève à cause de ses ressources financières devenues insuffisantes. Elle s'installera avec ses deux garçons à Berlin chez son frère. Quant à Rilke, il pourra toujours compter sur le soutien de ses amis suisses. Cette fois sera le prieuré de Thouars, un village entre Genève et Lausanne, à l'accueillir. La princesse Turentaxis ira le voir là-bas et insistera beaucoup pour qu'il accepte son invitation dans le château de Lautschin en Bohême. Mais Rilke n'est nullement ravi par cette solution. Il rassemble le manque de Merlin, elle implore de le rejoindre avec une lettre où il parle de Sierre comme un lieu magique. Écoutez ce qu'il dit. « Sierre, Sierre, ça c'est en allemand, immer sah ich uns in Sierre. Es scheint mir, dass das Schicksal uns das schuldig sein, uns dorthin zu versetzen. Auf unsere Terrasse mit unseren Büchern. Cher, si on veut, si on croit, tout est possible. Au Valais, nous aurions ce grand, cet admirable paysage. Sur le ravissement que Rilke éprouvait pour le paysage du Valais, existe un témoignage extraordinaire confié à une lettre écrite à la princesse Turentaxis le 25 juillet 1921. C'est une longue citation, mais elle est tellement belle que je n'ai pas pu m'empêcher de la reproduire. Ce qui, d'autre part, me retient encore, c'est ce merveilleux Valais. Je fus assez imprudent pour descendre dans cette vallée jusqu'à Sierre et à Sion. Je vous avais parlé de la magie combien singulière que ces lieux exerçaient sur moi lorsque je les vis pour la première fois l'an dernier à l'époque des vendanges. L'effet que dans la physionomie de ces paysages, l'Espagne et la Provence s'entrepénètrent de façon si étrange m'avait déjà fortement ému naguère, car ces deux pays, au cours des dernières années d'avant-guerre, m'ont tenu un langage plus puissant et plus décisif que tout le reste. Et dès lors, jugez du fait d'entendre leurs voix réunies dans le vaste vallée des montagnes en Suisse. Et cet accent, cette affinité, cette parenté ne sont point imaginaires. Récemment encore, je lisais une rubrique consacrée à la flore valaisanne, que certaines fleurs apparaissent ici qui ne se rencontrent nulle part ailleurs qu'en Provence et en Espagne. Il en est de même des papillons. C'est ainsi que l'esprit d'un grand fleuve, et le Rhône me fut toujours l'un des plus admirables, porte à travers le pays les dons et les affinités. Sa vallée ici est tellement large, tellement grandiose, remplie de coteaux dans le cadre des grands chaînes de montagnes, qu'elle offre sans cesse à la vue les jeux des variations les plus ravissantes. En quelque sorte, un jeu d'échecs composé des collines. Jeu qui distribuerait et déplacerait des collines, c'est bien là l'effet, digne de la création, qu'exerce le rythme de l'ordonnance qui se renouvelle étonnamment à chaque fois que l'on change de point de vue. Et les vieilles demeures, le vieux château fort, se meuvent dans ce jeu d'optique avec d'autant plus de charme que le plus souvent, les demeures ont pour arrière-plan la pente d'un vignoble, la forêt, le pré, d'un bois ou des grisâtres rochers, et s'intègrent à cet arrière-plan comme les images d'une tapisserie. Car le ciel le plus indescriptible, presque sans pluie, c'est pas vrai, mais prend part de très haut à ces perspectives et les anime d'une atmosphère tellement spirituelle que la position réciproque des choses, tout comme en Espagne, semble à certaines heures manifester cette tension que nous croyons percevoir entre les astres d'une constellation. Mais j'en arrive aux raisons particulières de mon attardement. Lorsqu'il y a 3 semaines environ, j'ai quitté Étoile, accompagné d'une visite. Nous n'étions pas restés plus longtemps à l'hôtel. On nous parla d'une petite demeure qui, de prime abord, se révéla impraticable. Nous examinions tel ou tel endroit, le temps passait, quand tout à coup se découvrit un objet de la plus grande séduction. Ce vieux manoir, une tour dont le mur remonte au 13e siècle, a été à vendre ou à louer. À un prix fort avantageux, mais pourtant inabordable, eu égard aux ressources que je serais susceptible de réaliser en France-Suisse. C'est alors que la semaine dernière, l'un de mes amis qui connaissait depuis longtemps le dit château des Museaux, entre parenthèses, prononcé Musotte, l'un de Reinhard de Winterthur, a loué la maison pour la mettre à ma disposition. Il faut maintenant revenir un instant en arrière, car le conte que Rilke fait à la princesse garde un caractère quelque peu officiel, qui arrive presque à effacer la présence de Merlin, définit simplement une visite. D'un point de vue plus intime, le même récit sonne comme ça. Rilke rassemble le manque de Merlin, elle implore de le rejoindre. La femme qui, du commencement de leur correspondance, avait écrit « Tu me trouveras partout où tu voudras que je sois avec toi. » Le 19 est à Étoile. Et tout de suite, les deux partent pour le Valais. Il arrive à Sierre, s'installe à l'hôtel Bellevue, qui est devenu un point de repère pour leur histoire. La recherche de la maison pour l'hiver sera difficile. Ce fut presque par hasard qu'un soir, sortant de l'hôtel, Merlin remarquera dans la vitrine d'un coiffeur la photo d'un petit château à louer ou à vendre. C'était Musotte. Le bâtiment, entouré par un jardin et placé sur la colline, leur sembla convenable, mais la négociation avec le propriétaire traîna longtemps car Rilke ne voulait s'engager que pour 3 mois. Cette fois, c'est lui-même qui résout le problème, faisant appel à la généreuse Nanny Wunderlich. Celle-ci s'adressa à son cousin Werner Reinhardt, qui loua le château d'abord pour une très longue période, et puis il finit pour l'acheter. Merlin compris tout de suite comment fallait-il aménager ce château dans lequel il n'y avait ni gaz, ni électricité, ni eau courante, ni aucune forme de réchauffage. Des remarquables travaux furent accomplis grâce à la générosité de Werner Reinhardt, bien sûr, et de Nanny Wunderlich, si bien que le petit château devint un lieu suffisamment confortable pour y passer l'hiver, d'autant plus que Nanny Wunderlich eut l'amabilité d'y envoyer une femme de ménage silencieuse et discrète comme celle qui avait déjà si stérile que l'année précédente à Berg am Hirschel. Cette femme s'appelait Frida Baumgarten et servit les poètes de son mieux au cours des années. À la mort de Rilke, Werner Reinhardt la nomma garante des museaux. Frida Baumgarten se trouva donc dans la même condition de Céleste Albaret, la femme de ménage de Marcel Proust, qui, à la mort de l'écrivain, devint elle aussi la garante de la maison. Si bien qu'en 1973, elle publia un livre de souvenirs. Pour ce qui concerne Frida Baumgarten, j'appris hier, grâce à Madame Duvillard, que Frida aussi nous a laissé quelques mémoires. Le 8 octobre, après 6 mois vécus à côté de Rilke, Merlin rentra à Berlin, laissant encore une fois son poète à la recherche d'une inspiration qui s'est refusée depuis plusieurs années déjà. Après le départ, Rilke envoya à Merlin un message plein de reconnaissance. « Musot, désormais vivra de ce cœur que tu lui as éveillé. » Mélancolique et tendre, Merlin écrit de Berlin. « As-tu remarqué que j'ai laissé mon chapeau d'été accroché au vestibule ? Ne le touche pas, chérie, qu'il y reste. Que Musot soit béni, 3 fois béni. » Les beaux jours de l'été 1921 sont loin désormais, et elles se résignent. Mais cette allure qu'on pourrait appeler « andante mesto » est secouée comme par un tremblement de terre le 9 février par une lettre de Rilke. « Merlin, je suis sauvé. Ce qui me pesait et m'angoissait le plus est fait, et glorieusement, je crois. Ce n'était que quelques jours, mais jamais je n'ai supporté un pareil ouragan de cœur et d'esprit. J'en tremble encore. Cette nuit, je pensais défaillir. Mais voilà, j'ai vaincu. Je suis sorti pour caresser ce vieux Musot, tout à l'heure au clair de lune. Maintenant commence le travail calme, pondéré, journalier, sûr, qui me semblera wie eine Windstille, un petit souffle de vent. Après cette tempête divine, trop fort pour n'importe qui. Qu'est-ce qu'il était arrivé? Le premier jour de l'an, Rilke reçut par la poste un paquet dans lequel une amie d'autrefois, Madame Gertrude Ukama-Knopf, avait mis quelques feuillets écrits par sa fille Vera, morte de leucémie en 1919. Rilke fut très impressionné par ce journal d'une mourante. Il s'agissait d'une jeune fille fort belle, avec un rare talent pour la danse et pour la musique, qui avait été une bonne amie de sa propre fille. Ce fut la méditation sur les derniers mots de cette jeune fille, sur son lucide adieu à la vie, qui ouvrit la voie à cette inspiration si longtemps et vainement recherchée. Comme le raconte lui-même dans la lettre à Merlin que je viens de citer, il s'agit d'un véritable ouragan. Entre le 7 et le 14, Rilke achève les élégies de Duino et une suite de sonnets qu'il appellera « Sonnets à Orphée », conçu comme un monument funèbre à la mémoire de la défunte Vera Ukama-Knopf. Les sonnets à Orphée sont 2 cycles, de 26 le premier et de 29 le second, et comptent parmi les achèvements plus hauts de l'œuvre poétique de Rilke. Dans leur éblouissante profondeur, ils sont parfois mystérieux. Mais si l'on s'arrête sur chaque mot avec la juste patience, si on les lit à haute voix, comme conseillait le poète lui-même, si on avance un peu et puis on revient en arrière, analysant le poids et la vibration qui se dégage de chaque mot, à un moment donné, la signification intime reluira avec un éclat imprévu qui va nous frapper avec une intensité inoubliable. Car le passé et l'avenir, la vie et la mort, les catégories qui s'opposent, nous apparaîtront réconciliés dans une supérieure unité. L'histoire que nous avons évoquée, celle de l'amour de Merline et de la solitude dans laquelle s'enfermait le poète, en un mot, l'amour humain et l'amour de la poésie, sont expliqués dans le troisième sonnet du premier cycle. Le vrai chant, facile pour les dieux, est presque une chimère pour les mortels. Ceci, poussé par l'amour, apprend un chant plein de charme et parfaitement compréhensible. Mais ce chant humain, issu de l'amour, il faut l'oublier, parce que le vrai chant ça doit s'adresser à l'être, dans son insaisissable grandeur philosophique. Rilke dit « Gesang ist Dasein » et ajoute « Ein Hauch um nichts, ein Wehen in Gott, ein Wind » chanté en vérité et un tout autre souffle, un souffle pour rien, un vol dans les dieux, un vent. Je me permets de vous rappeler que c'est avec le mot « Gesang ist Dasein » que Martin Heidegger conclut son essai « Wozu Dichter » qu'on pourrait traduire en français « À quoi bon le poète ?» Dans ses sonnets et dans la majeure partie des autres, Rilke effleure souvent ce qu'on appelle l'indicible. Et ainsi, il s'approche des frontières de l'art abstrait et donc d'une pensée foncièrement contemporaine. Sur ces rapprochements, j'aimerais vous rapporter le témoignage de Hugo von Hofmannsthal. En ayant reçu de Rilke, bien sûr, un exemplaire de ses sonnets à Orphée, il le remercia avec une lettre du 25 mai 1923. « Mon cher Rilke, je n'ai pas voulu vous remercier tout de suite avant d'avoir distillé la beauté singulière de votre nouveau style. Car durant toute votre vie, vous avez modifié presque d'œuvre en œuvre votre style. Je m'en imprègne lentement, je prends parfois conscience, puis je m'arrête et je reviens souvent en arrière. Il est étonnant pour moi de voir comment, dans ces poèmes, vous êtes parvenu à extraire de la peine indicible une nouvelle ligne frontière. Et j'étais plus d'une fois charmé par la beauté et par l'assurance avec laquelle est disposée une pensée subtile, comme la touche admirable d'un peintre chinois mélangé de sagesse et d'ornement rythmique. C'est fini. Je vous remercie.
Merci, merci.